Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manelakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du vendredi 5 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Au Togo, l'opposition et la société civile appellent à manifester après le report des législatives. Le régime militaire de Niamey dissout les conseils des collectivités territoriales. 30 ans après le génocide au Rwanda, le vécu des rescapés et la perception des jeunes générations.
Aujourd'hui, quand on va sur les collines, on voit des villages de réconciliation qui ont poussé comme ça. Sur les collines aujourd'hui, 30 ans après, vraiment, les gens sont ensemble.
Des associations dénoncent également l'impunité de militaires et politiques français. Pressé par les États-Unis, Israël promet d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza en Chine. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, veut des règles équitables pour les groupes américains. En Haïti, l'effet des sanctions contre les gangs extrêmement limité. Plus de 13 000 migrants haïtiens sont renvoyés dans leur pays malgré les violences. Et n'en manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Togo, plusieurs partis d'opposition et groupes de la société civile ont appelé hier jeudi à 3 jours de manifestation pour protester contre le report des élections législatives et régionales dans un contexte de tensions politiques croissantes depuis l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars. Claire Morin-Gibourg.
Cet appel à manifester intervient au lendemain de l'annonce du report des élections législatives et régionales, initialement prévues le 20 avril, afin, selon les autorités, de donner le temps à l'Assemblée nationale d'étudier une seconde fois le projet de nouvelle constitution qu'elle a adopté le 25 mars. L'opposition qui avait boycotté les dernières législatives de 2018 a prévu de participer massivement au scrutin cette année. Après la levée de boucliers provoquée par l'adoption de cette nouvelle constitution, qui fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, le président Faure Gnassingbé a ordonné la semaine dernière un nouvel examen du texte par les députés. L'opposition craint que la nouvelle constitution, qui confère à l'Assemblée nationale le pouvoir d'élire directement le président et le chef du gouvernement, ne laisse la voie libre à la prolongation du président Faure Gnassingbé à la tête du pays.
Le chef du régime militaire au Niger a dissous jeudi les conseils des collectivités territoriales élus fin 2020. Aucune explication à cette dissolution n'a été donnée. Par un autre décret, le général Tiani a nommé des militaires, des officiers de la police et des civils chargés de diriger les collectivités, ont annoncé la télévision et la radio publique. La capitale de Niamey sera désormais dirigée par un colonel de l'armée en remplacement du maire Oumarou Dogari. Des associations dénoncent l'impunité de militaires et politiques français dans le génocide au Rwanda. Elles évoquent des obstacles persistants des autorités françaises dans les procédures judiciaires visant d'anciens responsables français lors des massacres. Alexandrine Relognon.
Plusieurs associations des droits humains étaient représentées ce jeudi à Paris lors d'une conférence à quelques jours du début des commémorations du 30e anniversaire du génocide. Ce que l'on demande, c'est qu'il n'y ait plus les obstacles qu'on rencontre encore de la part des autorités françaises à ce que les procédures aboutissent, qu'il y ait une vraie volonté de lutter contre l'impunité, a déclaré Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale pour les droits de l'homme et de la Ligue des droits de l'homme. Depuis 2005, 6 rescapés de la région rwandaise de Bisesero, Survie, la FIDH et d'autres parties civiles accusent la force française turquoise d'avoir sciemment abandonné aux génocidaires des centaines de Tutsis à Bisesero du 27 au 30 juin 1994. En 2021, une commission de chercheurs et historiens mandatée par le président Emmanuel Macron a rendu un rapport qui a conclu aux responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide des Tutsis. Le rapport du Clerc a qualifié ces événements de drames humains et d'échecs profonds pour la France.
Le président français Emmanuel Macron a réitéré les responsabilités de la France dans le génocide, affirmant que Paris aurait pu intervenir pour stopper cette tragédie. L'Élysée diffusera dimanche une vidéo sur ses réseaux sociaux. Le président Macron soulignera que la communauté internationale avait la capacité de détecter et d'intervenir lors du début du génocide des Tutsis en s'appuyant sur les leçons des génocides arménien et de la Shoah. Il soulignera également que la France, avec ses alliés occidentaux et africains, aurait pu arrêter le génocide, mais a manqué de volonté pour le faire. Le président de la Sierra Leone a fait jeudi de la lutte contre la drogue une urgence nationale. Notre pays est actuellement confronté à une menace existentielle en raison de l'impact ravageur des drogues et de la toxicomanie, en particulier de la drogue synthétique Kush, qui fait des ravages dans la jeunesse, a-t-il expliqué en annonçant un plan comprenant la création de centres de traitement dans chaque district pour aider les toxicomanes, ainsi que des efforts pour démanteler les réseaux de trafic de drogue et de sensibiliser le public. Le Libéria a aussi fait de la lutte contre le Kush une urgence de santé publique. Antananarivo a exigé que l'Union européenne rappelle son ambassadrice pour Madagascar et les Comores en poste dans la capitale malgache après une déclaration fustigeant une loi locale prévoyant une peine de castration pour les violeurs de mineurs. Amnesty International a qualifié la loi de cruelle, inhumaine et dégradante. La France est prête à investir aux côtés du Maroc au Sahara occidental, territoire revendiqué par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, a déclaré à la Chambre française de commerce et d'industrie de Casablanca le ministre français au commerce extérieur qui effectue une visite de 2 jours au Maroc.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a annoncé ce vendredi autoriser la livraison temporaire d'aide dans la bande de Gaza, assiégée et menacée de famine, via le port d'Ashdod et le point de passage d'Erez, au lendemain d'une mise en garde du président américain Joe Biden. Biden a appelé à un cessez-le-feu immédiat. John Lindon.
Cette annonce survient au moment où la pression internationale s'accentue sur le gouvernement israélien. Le président des États-Unis, Joe Biden, a évoqué jeudi pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures tangibles face à la catastrophe humanitaire à Gaza. Selon un communiqué, Israël va autoriser l'acheminement temporaire de l'aide humanitaire par le port israélien d'Ashdod et par le point de passage d'Erez entre le territoire palestinien et le sud d'Israël. Les autorités israéliennes vont aussi permettre l'augmentation de l'aide jordanienne par Kerem Shalom, poste frontière du sud d'Israël. Après l'annonce du gouvernement israélien, la Maison-Blanche l'a appelé à tenir ses promesses en les mettant rapidement et complètement en œuvre. En plein drame humanitaire à Gaza, la mort lundi dans des frappes israéliennes de 7 travailleurs de l'ONG World Central Kitchen a accru le mécontentement international.
Jeudi, MSF, Oxfam, Médecins du Monde et Save the Children International ont alerté sur leur quasi-impossibilité de travailler à Gaza. Depuis le début de la guerre, près de 200 humanitaires ont été tués, selon le secrétaire général de MSF. Selon une étude jeudi d'Oxfam, la population du nord de la bande de Gaza survit avec moins de 12% des besoins caloriques quotidiens moyens. Les États-Unis veulent des conditions de concurrence équitables pour les entreprises américaines, a déclaré ce vendredi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, à des responsables chinois. Elle met en garde contre le risque de propagation mondiale des excès de production chinoise dus aux subventions. Lionel Runanilagahima.
Janet Yellen a rencontré ce matin le gouverneur de la province de Guangdong, la plus riche du pays et emblématique, et de la puissance manufacturière chinoise. Les États-Unis veulent une relation économique saine avec la Chine, a-t-elle assuré. Mais cela requiert des conditions de concurrence équitables pour les entreprises américaines et leurs salariés, ainsi qu'une communication ouverte et directe sur les domaines où nous avons des désaccords, a souligné Janet Yellen. Ces dernières semaines, Janet Yellen a mis en garde contre les vastes subventions du gouvernement chinois dans le secteur des technologies, qu'il s'agisse des énergies vertes, des véhicules électriques ou encore des batteries. À Pékin, Janet Yellen rencontrera le vice-premier ministre, le ministre des Finances ainsi que le premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale. Ils auront notamment l'occasion d'aborder des questions sensibles comme les restrictions américaines contre la Chine, prises au nom de la sécurité nationale ainsi que le soutien économique de Pékin à Moscou.
Quelques 13 000 migrants haïtiens ont été renvoyés chez eux de force par des États voisins en mars, malgré la situation humanitaire et sécuritaire catastrophique, souligne jeudi l'Organisation internationale pour les migrations. C'est 46% de plus que le mois précédent, note l'OIM dans un communiqué qui précise que 3 000 d'entre eux ont reçu une assistance humanitaire à leur retour et 1 200 bénéficient d'un soutien psychosocial. Par ailleurs, l'impact des sanctions de l'ONU contre plusieurs chefs de gang en Haïti est extrêmement limitée et l'application de l'embargo sur les armes est médiocre, ont fait savoir des experts mandatés par l'ONU pour surveiller ces sanctions. Les chefs de gang haïtiens ont continué à constituer leurs arsenaux, à étendre leur contrôle sur le territoire et à étoffer leur rang malgré les sanctions imposées à leur encontre, ajoutent les experts. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, nous retrouvons Nathalie Barge dans sa Minute Éco.
Une délégation du FMI est en mission d'évaluation des programmes économiques en Côte d'Ivoire jusqu'au 6 avril. Le pays a conclu avec le FMI l'an dernier le programme économique et financier de 3,5 milliards de dollars pour 2023-2026. Le programme de facilité de résilience et de durabilité de 1,3 milliard de dollars, conclu en mars, vise à faire passer l'État ivoirien au statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2030. Au Nigeria, la raffinerie du groupe Dangote a démarré la fourniture de diesel aux négociants pétroliers. Lippmann, contrôlant de nombreuses stations-service, indiquait que les négociants pétroliers locaux ont fixé le prix du litre de diesel à 1225 naira, soit 0,85 dollars sur la base d'une entente d'achat en gros. La raffinerie a une capacité de 650 000 barils de traitement par jour.
À présent, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Ce vendredi se jouent les matchs aller du dernier tour qualificatif au JO 2024 foot féminin Zone Afrique.
Oui, la Zambie et le Maroc s'affrontent au stade Lévi Mwanawas à Ndola. Dans l'autre match aller, gros choc attendu entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Amin Birouk.
Tous les regards seront focalisés sur la double confrontation entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, entre les champions d'Afrique en titre et l'équipe qui a très longtemps dominé le football africain sur le plan féminin et qui a réussi un excellent mondial. Il faut dire aussi que les Sud-Africaines avaient été excellentes lors de la dernière Coupe du Monde puisque les deux pays avaient réussi à s'extirper du premier tour de phase de groupe. Deux confrontations intéressantes. La force de frappe de l'équipe sud-africaine réside dans son collectif avec une ossature d'Emma Meloli Sandans du côté du Nigeria. Azitat Oshuala qui évolue au Barça, quelques individualités en Europe pourraient faire la décision. Dans l'autre confrontation, il y a la Zambie de Barbara Banda qui sera opposé à l'équipe du Maroc, encore des équipes qui étaient lors de la dernière Coupe du Monde présentes. Les Zambiennes ont l'ascendant psychologique sur les Marocaines, notamment lors des confrontations en amicales qui avaient eu lieu au mois de septembre dernier avec deux victoires de la Zambie, et notamment la dernière en date sur le score de 6-2 qui avait coûté sa place à Reynald Pedros, remplacé par Jorge Vilda, l'ex-entraîneur de l'équipe d'Espagne champion du monde. Vilda qui compte sur l'expérience du bloc de l'AS FAR, plus quelques joueuses évoluent en Europe pour pouvoir, bien évidemment, permettre au Maroc d'être, pour la première fois de son histoire, qualifié lors des JO. Le match aller à Ndola risque d'être déterminant aux Marocaines de résister aux assauts adverses, de jouer bloc bas, de ne pas laisser d'espace dans le dos pour pouvoir, bien évidemment, réussir à amener un bon résultat, histoire peut-être de forcer la décision à Rabat 5 jours plus tard.
Amin Birouk, notre consultant à Casablanca.
En athlétisme, Yacouba, Eliud Kipchoge fera partie d'une équipe kényane réduite pour le marathon au prochain JO.
Le double médaillé d'or olympique en titre en marathon sera le fer de lance d'une délégation du Kenya réduite dépêchée aux Jeux Olympiques 2024. Selon les responsables de l'athlétisme kényan, par rapport aux 20 athlètes dont les noms avaient été initialement annoncés en décembre, seulement 6 de la dizaine de coureurs de fond hommes et femmes annoncés jeudi feront le déplacement à Paris. Eliud Kipchoge, 39 ans, fait partie de la liste tout comme le double vainqueur du marathon de Boston, Benson Kipruto. Kipchoge vise une troisième médaille d'or olympique après celle gagnée à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Chez les femmes, Peres Chepchechir, médaillée d'or à Tokyo, et la médaillée d'argent Brigitte Kosgei feront partie de la délégation avec la gagnante des récents marathons de Boston et Chicago, Hélène Obiri.
C'était Yacouba Ouedraogo dans votre page des sports.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le Rwanda se prépare à commémorer le 30e anniversaire du génocide commis contre les Tutsis. Comment les survivants vivent-ils aujourd'hui et comment les jeunes nés après perçoivent-ils cet événement tragique? Élément de réponse dans ce reportage de Jean Damasène Manishimwe, notre correspondant à Kigali.
Les préparatifs s'accélèrent au site mémorial du génocide de Gisozi à Kigali pour débuter la 30e commémoration du génocide des Tutsis. Avec ces travaux, les mouvements de visiteurs du mémorial ne s'arrêtent pas. Parmi eux, des jeunes. Même s'ils sont nés après le génocide, ces derniers sont bien conscients du rôle à jouer dans la construction des Rwandas nouveaux.
Nous avons bien compris l'origine du génocide. Au départ, c'est une idéologie négative propagée par des dirigeants. Nous sommes prêts à lutter contre des idéologies similaires, que ce soit au Rwanda ou ailleurs dans le monde.
Cette histoire nous apprend que nous devons résoudre nous-mêmes nos problèmes. Ces gens ont été massacrés devant la passivité de la communauté internationale. Ce sont les Rwandais eux-mêmes qui ont arrêté ce carnage.
L'histoire du génocide des Tutsis attire aussi des étrangers, comme ce touriste américain rencontré au site mémorial de Kigali. Il estime que le monde doit beaucoup apprendre de la commémoration du génocide.
Chaque peuple formant une nation et chaque gouvernement doit comprendre ce qui a permis à un tel génocide de se produire. Il faut éviter les discours de haine et une presse incendiaire parce que la presse a été utilisée ici au Rwanda. Il faut aussi soigner l'éducation, éviter la haine, la corruption, la division et la séparation des gens en groupe.
Aujourd'hui, les rescapés ont opté pour la résilience, même s'ils restent confrontés à certains défis. C'est ce qu'indique le président de la principale association des rescapés du génocide.
Ce sont deux défis que nous sommes en train d'affronter. C'est la question de la santé, aussi la santé physique que mentale, et d'autant plus que plus le temps avance, on remarque que ceux qui pouvaient marcher, qui pouvaient essayer de travailler, et il y a peut-être des maladies qui n'étaient pas sensibles, avec l'âge, ils commencent à tomber dans une situation de vulnérabilité tout à fait visible.
30 ans après le génocide, le Rwanda se félicite d'un pas franchi vers la réconciliation, même si le chemin reste encore long. Emmanuel Sehene est un journaliste passionné pour la justice au Rwanda.
Aujourd'hui, quand on va sur les collines, on voit des villages de réconciliation qui ont poussé comme ça. Sur les collines aujourd'hui, 30 ans après, vraiment, les gens sont ensemble, même si, comme étant un processus, je parle de réconciliation.
Au Rwanda, la période de commémoration du génocide s'étend sur 3 mois. Un rappel des 100 jours qu'ont duré les massacres des Tutsis en 1994. Jean Thomas Seniman Chimney pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, le prix du cacao a augmenté de 50% pour la saison intermédiaire 2023-2024, atteignant 1500 francs CFA par kilogramme, soit 2,4 $, comparé à 1000 francs CFA l'année dernière. Cette décision du gouvernement ivoirien fait suite à la hausse sur le marché boursier de Londres, apportant un soulagement aux cacaoculteurs qui ont longtemps fait face à des conditions précaires. Le reportage est de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenyo.
Loin d'Abidjan et de ses folklores, les producteurs de cacao ivoiriens sont parfois laissés à eux-mêmes. Ils sont plus de 50% à vivre en dessous du seuil de pauvreté. La vente du cacao ne se déroule pas comme il espère et les réformes entreprises par le gouvernement ivoirien ne les aident pas à joindre les deux bouts. Enoch Dia, producteur de cacao.
Souvent aussi, nous qui sommes aussi éloignés dans les petits campements, souvent aussi quand tu vas aller vendre ton cacao, ils vont te dire que le cacao n'est pas encore bien sec et quelques trucs, donc tu ne peux pas avoir le prix forcément qu'on a fixé par l'État. Donc il faut que souvent l'État aussi envoie des agents dans les petites contrées aussi pour qu'on puisse surveiller, pour que vraiment le prix soit appliqué.
Pour régler ce problème, le gouvernement ivoirien a décidé de subventionner les producteurs à un prix fixe plancher de 1000 francs CFA. Malgré cette allocation, les producteurs n'arrivent toujours pas à bien vendre leur cacao. L'augmentation de 50% vient donc comme une bouffée d'oxygène. Kobinon Adjoumani, ministre de l'Agriculture.
C'est un niveau de prix jamais réalisé dans l'histoire de la filière cacao en Côte d'Ivoire. C'est aussi la première fois que le prix de la campagne intermédiaire est supérieur à celui de la campagne principale.
Cette nouvelle augmentation est surtout due à la hausse du prix du cacao sur le marché de Londres et de New York. Le tarif a atteint 5874 et 5386 dollars la tonne. C'est deux fois plus cher qu'il y a 18 mois. Une tendance haussière qui pourrait rechuter néanmoins. Moutiou Adibi Nourou, journaliste économique.
C'est une mesure exceptionnelle. Et parce que, voilà, justement, les cours sur le marché international sont en train de flamber. Mais après, certainement, ces cours-là vont redescendre en raison du système de la Côte d'Ivoire, du système de répartition des prix aux producteurs en Côte d'Ivoire. On peut s'attendre à ce que cette situation exceptionnelle-là ne dure pas forcément dans le temps.
En Côte d'Ivoire, le prix au kilogramme du cacao fait souvent l'objet de polémiques en raison de sa dépendance aux marchés mondiaux. Les producteurs ivoiriens reprochent au Conseil Café Cacao de ne pas bien réguler le secteur, ce qui les plonge dans la précarité. Avec ce nouveau prix, le secteur pourrait toutefois connaître une période d'accalmie. Ange Bijounom ayant pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, le président de la Fédération de football, Samuel Eto'o, a exprimé son mécontentement au ministre des Sports mercredi concernant la nomination du Belge Marc Brice comme sélectionneur par le ministère des Sports. Il dénonce le manque de consultation de la FECAFOOT dans ce processus de présélection des candidatures pour le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables et de son équipe. Selon un courrier rendu public, Eto'o souligne que de telles nominations en dehors des procédures légales et sans implication de la FECAFOOT ne peuvent être reconnues. Pour en parler, Yacouba Ouedraogo, adjoint à Yaoundé, l'analyste Valère Bessala.
Moi, je ne crois pas qu'il devrait avoir un gros griot, puisqu'en fait, les textes sont tout à fait clairs. Le ministre est dans son bon droit de nommer le staff technique, à l'exception, je crois, d'un seul cadre qui relèverait de la compétence de la FECAFOOT, notamment le coordonnateur des équipes nationales. Il y a la convention ministère de FECAFOOT qui est en fait comme un texte d'application du décret de 2014. Et dans cette convention ministère, la seule autorité qui doit consulter l'autre avant de prendre une décision sur le choix du staff, c'est la FECAFOOT. Article 9 alinéa 1, c'est-à-dire que la FECAFOOT, avant de contractualiser un entraîneur, doit requérir préalablement l'avis du ministère. Maintenant, le ministère, lorsque lui décide de mettre à la disposition de la FECAFOOT son staff, il n'a pas une obligation de consultation. Le texte ne le dit pas. Donc, il n'y a pas de polémique à faire dessus.
D'aucuns parlent de règlement de comptes entre le ministre des Sports, Moëlle Kombi, et Samuel Eto'o fils, président de la FECAFOOT, en reconduisant, par exemple, l'ancien secrétaire général de la FECAFOOT viré par Eto'o.
Si vous dites déjà règlement de comptes, ça veut dire grands intérêts. Et si vous dites grands intérêts, ça veut dire intérêts égoïstes. Et donc, si on décide de gérer la chose publique, puisqu'il s'agit d'argent, sur la base des intérêts privés, on ne va arriver qu'à cette affaire de règlement de compte. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut décider de régler votre compte alors que vous êtes là pour travailler pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt général. Donc d'un côté comme de l'autre, je crois qu'il y a forcément des affaires privées, des intérêts égoïstes, ce qui fait que désormais, quand on ne s'est pas entendu, ça ne peut arriver qu'à ce genre de choses-là. Si vous respectez les textes, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut se retrouver dans ce genre de conflit d'intérêts.
Le Cameroun sort d'une piètre élimination en huitième de finale lors de la dernière CAN. Il y a les éliminatoires pour le Mondial 2026 dès le mois de juin prochain. Pendant que tout cela se passe au niveau de la FECAFOOT, on se demande quand est-ce que le Cameroun va sortir de cet imbroglio-là?
Nous croyons en fait qu'il y a davantage de relents politiques en dessous de cet imbroglio. Vous savez que le Cameroun, l'année prochaine, devra aller à l'élection présidentielle avec l'élection sénégalaise qui s'est déroulée où on voit de plus en plus de jeunes arriver au pouvoir en Afrique. Le problème, c'est qu'on a utilisé le sport pendant près de 3 années déjà, depuis que ce monsieur est à la tête de la fédération, pour distraire les Camerounais de l'objectif politique final, c'est-à-dire le changement de système véritable changement de régime. Donc, quand on l'utilisait pour l'amener à l'Africa Foot, bon, je crois qu'ils étaient tous d'accord pour qu'il vienne. Lui-même, il était très content de devenir président de l'Africa Foot. Mais maintenant que les enjeux politiques s'approchent, sa popularité devient une menace pour le pouvoir politique. Et comme aussi sa personnalité un peu sulfureuse sur les bornes ne lui a pas permis d'être toujours lucide dans sa façon de gérer.
L'analyste Valère Bessala, joint à Yaoundé. L'immigration illégale est la préoccupation majeure pour de nombreux électeurs dans l'élection présidentielle américaine de cette année. Scott Stearns examine les divergences entre les candidats Donald Trump et le président Joe Biden sur les mesures à prendre. Son reportage est relaté par Gabi Dorsil.
Dans les primaires du Wisconsin cette semaine, l'immigration illégale a été un thème majeur pour de nombreux électeurs, y compris pour l'entrepreneur Scott Lindemann.
Immigration, inflation,
l'immigration, l'inflation, le droit à la vie. Je dirais que ce sont les trois grands thèmes pour moi.
Lindemann a voté par le passé pour le républicain Donald Trump et dit qu'il le fera de nouveau. Donald Trump a déclaré lors d'un rassemblement dans le Wisconsin qu'il préparait la plus grande expulsion de l'histoire américaine afin de débarrasser le pays de ce qu'il considère comme des personnes dangereuses.
Ils envoient des prisonniers, des meurtriers, des trafiquants de drogue, des malades mentaux, des terroristes. Ce qu'il y a de pire dans tous les pays entre dans notre pays maintenant. Ils viennent du Congo, du Yémen, de la Somalie, de la Syrie, du monde entier. Ils viennent, ils changent le pays. Ils menacent le pays. Ils détruisent le pays. Ils détruisent notre pays.
Un récent sondage Harvard Caps Harris indique que l'immigration est le principal sujet de préoccupation des électeurs américains, plus d'un tiers des personnes interrogées le plaçant au-dessus de l'économie, de la criminalité et des soins de santé. Quant au président Joe Biden, il affirme que les immigrants contribuent à l'économie américaine et qu'ils ne sont pas les animaux dangereux dont parle son adversaire.
On my first day in office as president.
Le premier jour de mon mandat de président, j'ai présenté un plan complet et global pour réparer notre système d'immigration, sécuriser notre frontière, fournir une voie d'accès à la citoyenneté pour les jeunes et leurs familles, les travailleurs agricoles, les travailleurs essentiels qui nous ont aidés à traverser la pandémie et qui font partie du tissu de notre communauté. Parce que contrairement à Donald Trump, je sais qui nous sommes en tant qu'Américains.
Les partisans de Trump se souviennent de sa promesse de 2016 de construire un mur à la frontière mexicaine. Il affirme qu'il terminera le travail s'il est réélu.
Avec votre vote, je vais sceller la frontière. Je stopperai l'invasion. Je mettrai fin au carnage, à l'effusion de sang et aux tueries. Et nous écraserons les trafiquants d'êtres humains.
La semaine dernière, une cour d'appel américaine a empêché le Texas de mettre en œuvre une loi qui criminaliserait l'entrée non autorisée dans l'État et permettrait aux juges du Texas d'ordonner l'expulsion des personnes arrêtées. Biden a déclaré aux maires américains qu'il existe un plan bipartisan au Congrès pour améliorer la sécurité aux frontières, avec plus de juges de l'immigration et d'agents pour traiter les demandes d'asile, ainsi que des technologies de pointe pour la détection de la drogue.
This bill would save lives. Bring order to the border.
Ce projet de loi sauvera des vies, il ramènera l'ordre à la frontière. Il prévoit également les fonds dont beaucoup de nos villes ont cruellement besoin. Il me donne également, en tant que président, une nouvelle autorité d'urgence ou à tout autre président pour fermer temporairement la frontière lorsque le nombre d'immigrants est hors norme afin de reprendre le contrôle de la frontière.
Les républicains de la Chambre des représentants se sont opposés au projet de loi bipartisan sur la frontière, en partie sur la base des objections formulées par Trump.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manelakiza au micro, Lionel Ounanela Gaïba a assuré la production et la réalisation. Que ce vendredi soit pour vous le début d'un week-end où chaque moment soit empreint de bonheur, de paix, de sérénité et de doux moments partagés à l'écoute de nos programmes. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur notre page Facebook et sur notre plateforme X. Un suivi d'actualité 24 heures sur 24. À la prochaine.